Donc cela nous amène tout droit à la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Je vais vous demander d'éteindre vos téléphones portables ou de les mettre sous silence. Et nous allons commencer donc ici où la salle est bondée, ici à Kinshasa. Pardon, faites doucement. Nous allons prendre, c'est juste un micro qui tombait pour ceux qui nous écoutent sur Radio Okapi qui savent de quoi il s'agit. Nous allons prendre une question peut-être au bout de la salle. Là, nous n'avons pas souvent les questions, voilà, on prend généralement les... Donc vous vous présentez et vous avez droit à une question, pas plus.
Merci, c'est Serge Mukendi, ASEM, Journal de la Ville. Monsieur le porte-parole, hier le ministre des Affaires étrangères a tenu un discours devant le Conseil de sécurité vous accusant de ne pas pouvoir amener la paix depuis plusieurs années en République démocratique du Congo, alors que vous avez l'habitude de nous dire que vous venez toujours en appui au gouvernement. Comment pouvez-vous répondre à cette préoccupation?
Alors, je rappelle que nous avons ici le général Cummins, qui est le commandant adjoint de la force. Nous avons également notre collègue Barbara Matasconi, des droits de l'homme. Bien sûr, notre invité, M. Alexis Bonté, qui vont participer, animer et répondre à vos différentes questions. Il faut savoir, pour donner un élément de réponse à votre question, que la première responsabilité de la sécurité dans ce pays incombe aux forces de sécurité congolaises. Et si vous prenez les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est très clairement dit que la force de la MONUSCO vient en appui pour aux forces de sécurité donc congolaises pour réellement rétablir la paix, la sécurité, la stabilité dans le pays. Et nous avons, c'est vrai, ce mandat de protection des civils. Mais peut-être que le général peut être encore beaucoup plus pointu que moi. Est-ce que ce mandat, effectivement, qui nous est donné, nous l'appliquons, oui ou non? Je crois que tous les efforts sont là pour démontrer qu'effectivement, la MONUSCO essaye. C'est bon, je crois, au niveau du micro.
Je pense que la réponse est dans votre question. On peut comprendre effectivement que la paix ne soit pas au niveau qui est souhaité, et nous, MONUSCO, avec nos partenaires, toutes les autorités congolaises, nous regardons attentivement cette longue marche vers la paix. Il est vrai qu'il reste encore un long chemin à faire ensemble. Et c'est bien ce mot « ensemble » qui me semble être au cœur de cet enjeu que nous avons tous. On peut effectivement dire « nous n'y sommes pas, il reste encore des choses à faire, ça fait longtemps, des années que la MONUSCO est là, qu'avez-vous fait ?» Nous avons fait beaucoup. Nous avons fait beaucoup. Et ici, les gens le savent bien. Toutes les actions que nous menons au quotidien pour, à côté de nos partenaires militaires congolais, prévenir des actions violentes, mettre un terme à ceux qui agissent de manière violente, tout ça, c'est notre action au quotidien. Au quotidien, avec nos partenaires congolais. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Et c'est la raison pour laquelle la mission que nous faisons ici, c'est de trouver quels sont les modes de fonctionnement, quelles sont les actions que nous allons pouvoir mener ensemble de manière très coordonnée, bien planifiée, pour pouvoir porter des coups sévères à ceux qui créent le chaos dans ce pays. Voilà, c'est une longue marche. Il reste encore sûrement un bout de chemin à faire ensemble, et notre énergie est vraiment tournée vers cela quotidiennement.
Nous avons un micro sur la gauche, peut-être. Où est le micro de la gauche? Bon, donnez à juste derrière vous. Voilà, présentez-vous et puis posez votre question, madame.
Pierre TVS 1, je voulais juste compléter la question dont mon confrère a posé. Est-ce que le renouvellement de la MONUSCO dépend-elle du gouvernement congolais ou soit du Conseil des Nations Unies?
Je n'ai pas de micro, si. Votre question est tout à fait opportune et d'actualité, puisque hier, vous le savez, de hautes autorités politiques congolaises ont eu l'occasion de s'exprimer devant les membres du Conseil de sécurité, ainsi que des représentants de la société civile, ainsi que des représentants de la CINCO, ainsi que notre représentant spécial, M. Maman Sidikou. Cela montre que nous sommes effectivement dans ce processus de renouvellement du mandat, puisque, vous le savez, notre mandat vient à son terme à la fin du mois de mars. Et donc, il appartient aux autorités congolaises, et c'est ce qu'elles ont fait hier, d'exprimer quelles sont leurs attentes, d'exprimer quelles sont aussi peut-être leurs déceptions ou ce qu'elle souhaiterait que ce mandat soit dans le futur. C'est ce qui a été fait hier et ceci est accessible sur le site web de l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, qui va en décider? Eh bien, ce sont les membres du Conseil de sécurité qui se réuniront et qui, après avoir entendu l'ensemble des intervenants, l'ensemble de ceux qui ont une action à conduire dans ce pays, eh bien, le Conseil de sécurité jugera, évaluera et votera, selon la décision qui sera la sienne et que je ne connais pas à ce jour, ce que sera ce mandat demain, quelle en sera la durée.
Tout à fait, je crois que tout est dit. Nous pouvons nous rendre directement à Goma pour prendre deux questions à Goma avant de revenir ici à Kinshasa. Goma, s'il vous plaît.
Oui, c'est Daniel Michombero pour Vision Chala. Ma question s'adresse au commandant Komi. Il reste encore une longue marche à faire pour atteindre la paix en RDC, mais déjà certaines bases de la MONUSCO vont fermer ses portes. Commandant Komi, ne serez-vous pas en train de vous contredire? Merci.
Général, merci de cette question extrêmement importante pour laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer au moins à deux reprises. Dialogue entre Congolais et puis également à l'occasion d'un point de presse il y a quelques semaines. Il n'y a rien de secret dans ce que nous faisons. Je l'ai déjà dit et je le répète, notre mission est une mission qui vise à adapter ses capacités, ses ressources à la situation du moment. Cela veut dire qu'il est nécessaire de procéder régulièrement à l'évaluation de la sécurité dans les zones où nous sommes déployés pour, en partenariat avec nos camarades des forces armées congolaises, mais également avec les membres de la société civile de ce pays et d'autres organisations et agences de l'ONU, pour en partenariat dresser un bilan. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la sécurité dans tel ou tel secteur? Comment la société civile parvient-elle à ramener le dialogue, l'entente entre des communautés qui se sont déchirées? Et c'est bien parce que ces communautés se déchirent que nous sommes là pour permettre l'établissement d'un dialogue et la mise en place de mesures qui permettront de ramener la stabilité de manière durable. Et donc, oui, nous réfléchissons à la fermeture d'un certain nombre de positions que nous tenons actuellement. Mais j'ajoute que ce n'est pas une fermeture sèche, si je peux dire. Cela veut dire qu'avec nos partenaires des forces armées congolaises, nous veillons à ce que quelqu'un prenne le témoin, le relais, et que derrière, les forces de sécurité de ce pays, à qui incombe en premier lieu la sécurité, puissent prendre notre place et ensuite, avec les ressources qui sont les leurs, contribuer à maintenir la sécurité. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'il n'y aura pas de vide sécuritaire. La MONUSCO est là. Aussi longtemps que nous serons présents, nous continuerons à avoir des patrouilles de jour, de nuit, des capacités de venir rapidement sur une zone où le besoin se ferait sentir. Bref, nous sommes dans une démarche continue d'ajustement de notre posture pour répondre au mieux aux défis sécuritaires et nous conservons bien en mémoire que nous ne sommes pas seuls et que nous agissons avec nos partenaires congolais d'abord.
Goma, nous allons prendre encore une question à Goma. Je rappelle que nous avons comme invité M. Alexis Bonté de la FAO, donc ici avec nous. Et j'espère que de Goma, il y aura une question pour lui. Goma, c'est à vous encore.
Merci, c'est Touver Woody de la FNC. Ma question va
à l'invité Alexis. Vous avez souligné que l'exploitation forestière est peu scrupuleuse en République démocratique du Congo. Mais il faut garder l'espoir. Pourtant, la population s'est dit que ces forêts ne nous servent à rien pour notre survie, autant plus que la situation socio-économique se dégrade alors qu'on a des forêts à côté de nous. Quelle est la solution que vous envisagez? Alexis?
Oui, merci pour la question. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les forêts ne servent à rien. Hein. Si vous estimez qu'il y a 80% de la biodiversité dans la forêt, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'animaux. Et si c'est géré correctement, ces animaux restent là. Si maintenant il y a une surexploitation, c'est clair que les animaux vont disparaître. Après, au niveau de la production alimentaire, il y a une approche qui s'appelle l'agroforesterie, où vous pouvez combiner la production vivrière avec la production d'arbres et d'arboriculture fruitière également. Donc, il y a différentes techniques qui existent et qui sont mises en place dans différents pays, et même au sein de la RDC, comme je l'avais mentionné, il y a des approches telles que faites sur le plateau de Bateke à Ibi Village et à Mampou, mais également à Lubumbashi, un projet qui s'appelle Afrodex sur l'agroforesterie, où on plante des arbres, des acacias en particulier, qui, durant les 2-3 premières années, sont combinés avec de l'agriculture, donc plantation de manioc ou de haricots. Et donc, pendant 2-3 ans, vous avez une plantation vivrière et vous pouvez récolter de la nourriture. Et à partir de la 3e jusqu'à la 6e année, vous commencez à récolter, à produire du charbon et à récolter le fruit et le revenu de ce charbon. Donc, il y a toujours moyen de combiner. Mais il suffit que les gens... Je pense qu'avec l'inventaire forestier qui sera fait au niveau national cette année-ci, on pourra identifier beaucoup plus de plantes et de types d'animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, donc tout ce qui est chenilles, miel, champignons qu'on trouve dans les forêts. Et ça, c'est souvent parfois des derniers recours pour les populations qui sont privées d'accès à leurs champs, par exemple.
Voilà, merci. Nous allons revenir à Kinshasa pour prendre... Oui, présentez-vous, donnez-lui le micro. Allez-y.
D'accord, merci. Josué Mfoutila pour les comptes de Siloé TV. Session extraordinaire de l'ONU sur la RDC. Une délégation congolaise a été, entre guillemets, conduite par chez Okitundu. Et la CENCO a pris la parole. Et le gouvernement représenté par chez Okitundu a également pris la parole. Et par rapport à Marcel Outembi, il a formulé un certain nombre de recommandations. L'ONU doit réagir. Ils ne veulent pas signer l'accord. Ils ne veulent non plus pas finir les arrangements particuliers. La situation politique, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus. Alors les Congolais ne savent plus à quel sein se vouer. Alors, on le sait très bien, la RDC se trouve dans une crise sans précédent. Ma question serait de savoir, que fera l'ONU? Puisque si l'ONU ne fait rien, les Congolais vont se fatiguer. Notre regard maintenant est dirigé vers l'ONU. Que fera concrètement l'ONU face à ces blocages que connaît l'accord? La situation sécuritaire se dégrade, la situation politique, n'en parlons même pas.
Bon, beaucoup de choses se passent derrière les rideaux. C'est vrai que quand on parle de bons offices, les gens pensent que c'est pas très visible, c'est pas très concret. Mais en réalité, les bons offices du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC, Mamman Sambo Sidiku, sont utilisés à fond, non seulement à son niveau, mais au niveau aussi de ses adjoints qui sont très actifs sur le terrain, tout comme au niveau aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, des autres acteurs, des autres responsables de la MONUSCO. Et ils continuent de recevoir, et je peux vous en assurer, non seulement les leaders de la majorité présidentielle, mais également ceux de l'opposition, que ce soit ici, à Kinshasa ou en RDC, et même lors de ces déplacements, beaucoup de rencontres se font. Pourquoi? Pour essayer justement de ramener les points de vue, pour essayer de créer un consensus autour des négociations menées par la CENCO. Et c'est justement parce que ces négociations sont si importantes, que cette médiation CENCO est si importante, que justement Monseigneur Outembi a été appelé à New York pour s'entretenir directement avec les membres du Conseil de sécurité qui doivent décider justement du renouvellement de ce mandat de la MONUSCO. Donc beaucoup de choses se passent, ne désespérons pas, attendons de voir les fruits de ces différents entretiens, de ces différentes négociations, de ces différents bons offices au niveau des Nations Unies, et vous verrez peut-être, et nous le souhaitons en tout cas, quelques résultats dans les jours ou les semaines qui viennent. Nous allons peut-être prendre une question, je ne sais pas où est le micro. Donnez le micro là. Il y a beaucoup de mecs qui se battent pour le micro aujourd'hui. Allez-y, posez votre question.
Merci Charles. Mesdames et Messieurs, journal Le Potentiel. Excusez Charles, la question demeure. Malgré les réponses que vous donnez aux différentes questions sur des questions d'ordre sécuritaire, retenez que vous laissez les Congolais sur leur soif et y appelez en la demeure. Et dans la convention signée le 28 janvier entre les FRDC et la MONUSCO, parmi les raisons majeures évoquées pour la prolongation du mandat de la MONUSCO, il était dit que c'était pour la protection des populations civiles. Mais sur le terrain, de mon point de vue, il y a incompatibilité entre la prestation de la MONUSCO et la convention signée. Qu'est-ce que je voudrais dire? après avoir massacré, par exemple, vous prenez le cas de Kananga, après avoir massacré les populations civiles, la MONUSCO vient faire le constat du massacre des fosses communes. Après avoir tué dans un coin, la MONUSCO vient constater, est-ce que cette fois-ci, la MONUSCO ne peut-elle pas, n'est-ce pas, aller sur l'autre phase de précéder les événements pour s'assumer pleinement en assurant la protection des dites civils sans qu'on nous présente chaque fois des bilans lourds qui ne correspondent pas à la mission dévolue à la mission visée.
Pour vous répondre justement sur exactement la situation dans la province donc du Kasaï, je veux juste vous rappeler un certain nombre de faits ou d'actions, et le général est là pour effectivement compléter ma réponse. Il faut dire que depuis le mois de décembre 2016, dès que les violences ont commencé dans cette province du Kasaï central, nous avons graduellement augmenté notre présence militaire sur le terrain, et nous avons aussi renforcé notre présence civile sur le terrain. Pourquoi ? Justement pour prendre en compte ce mandat de protection des civils. À l'heure actuelle, c'est vrai que ce renforcement se poursuit graduellement, comme je l'ai dit, et nous sommes conscients des défis, et le général l'a dit tout à l'heure, des défis immenses qui se posent. Nous allons continuer avec les autorités sur place, les autorités civiles provinciales, de voir comment nous pouvons mieux répondre à ces défis sécuritaires qui se posent sur le terrain. Général, peut-être quelques éléments à votre niveau.
Votre question est importante, mais elle apporte une réponse qui est, me semble-t-il, assez simple. Pourquoi arrivons-nous trop tard ? C'est un peu le fond de votre question. Eh bien, tout simplement parce que pour arriver à temps et pour prévenir, il faut avoir l'information. Comment avoir cette information ? Eh bien, il faut que ceux qui ont connaissance d'un acte qui va être commis puissent rapidement prévenir les gens de la MONUSCO à travers les systèmes d'alerte locaux que nous avons développés. Il faut que nous ayons les informations en temps utile pour pouvoir nous rendre le plus vite possible pour prévenir cela. Il faut que les camarades des forces armées congolaises qui ont également parfois ce genre d'informations puissent les échanger avec nous en temps et en heure. Et ensuite, il faut qu'on puisse rejoindre le lieu où va se commettre cet acte dans des délais rapides. Or, vous connaissez votre pays bien mieux que je ne le connais. Nous avons au quotidien à faire face, et en ce moment avec la saison des pluies, à des routes qui sont dans un état catastrophique parfois, qui ne nous permettent pas de circuler rapidement. On peut faire 10 km en 5 heures. Donc c'est l'hélicoptère autant que possible. Donc si vous voulez, soyez convaincus que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir prévenir la violence et nous mettre en situation de l'empêcher. On vous a cité quelques cas en ouverture de cette conférence de presse où l'information que nous avons reçue et transmise à nos camarades congolais dans le Kasaï a permis d'éviter des opérations malveillantes de la part des groupes adverses. Voilà, c'est notre objectif au quotidien et vous devez pouvoir nous y aider. Et je souhaite vivement qu'on puisse nous contacter le plus vite possible pour qu'on puisse réagir également le plus vite possible.
Alors pour compléter cette question, la collègue Barbara Mastaconi du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme va nous apporter quelques éléments de réponse également. Barbara ?
Oui, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à la partie de la question du collègue de la presse sur le fait que la MONUSCO vient et dresse les bilans. Je pense que peut-être ma section, la section des droits de l'homme, a un mandat de reporting sur les violations de monitoring et reporting sur les violations des droits de l'homme. J'entends quelquefois que cette fonction est un peu banalisée. On ne vient pas juste pour faire un bilan qui reste lettre morte dans un tiroir de quelqu'un, d'un fonctionnaire des Nations Unies. Nous avons un fort mandat de ces reportings mène à des arrestations, à la lutte contre l'impunité pour ces violations, à dresser des responsabilités. Et nous sommes fortement convaincus que si les auteurs des crimes et des violations des droits de l'homme sont arrêtés et punis selon la loi, ça a un effet positif sur la diminution de ces violations. Et je pense que ça doit être précisé.
Merci Barbara. Nous allons peut-être repartir à Goma alors que Radio Okapi est en train de couper les émissions pour continuer leur programme à leur niveau. Nous allons peut-être prendre deux ou trois questions ici avant de clore cette conférence. Goma, s'il vous plaît, une question avant qu'on ne puisse revenir ici. Goma, allez-y.
Merci beaucoup. C'est Isaac Mastak pour le compte d'Emmanuel TV. Ma question, je la pose à madame ou mademoiselle Lorraine, je ne sais pas. Merci beaucoup. Vous avez vous avez donné une liste d'activités que vous allez mener, mais vous n'avez pas précisé pour certaines activités. Vous avez parlé de la réparation de becs de lièvre et de fistules. Vous avez aussi parlé de l'hôpital Keshero. Voilà, mais vous n'avez pas donné une précision pour ça. Et pourquoi le choix de Keshero? Parce que récemment, vous étiez en ville de Goma. Est-ce que vous n'avez pas pu terminer avec ce que vous aviez commencé? Ou il y a encore d'autres qui viennent de s'ajouter à ce que vous allez faire? Merci beaucoup.
Donc, la question, pour être un peu plus concis, c'est quelles sont les informations que je peux apporter supplémentaires par rapport à la campagne qui a lieu pour la réparation de la fissure obstétricale à Goma, à Kishibero, à l'hôpital, c'est bien ça? Ok, donc c'est une campagne qui a lieu à Goma, à l'hôpital Kishibero, qui commence aujourd'hui, ce 22 mars. Donc je vais apporter un peu plus d'éléments. Cette année, une première mini-campagne de 5 jours a eu lieu à Kinshasa au mois de février et a permis d'assurer la réparation de 32 cas à l'hôpital Biamba Marie Mutembo. La présente campagne va contribuer à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des soins de qualité à travers la réparation de la fistule obstétricale. Donc plus précisément, cette campagne devra réparer au moins 50 cas de fistule obstétricale sélectionnés à Goma au niveau de l'hôpital, y compris les cas d'échecs issus de la première mini-campagne 2017 dans la ville de Kinshasa. Renforcer les capacités d'au moins 6 médecins, 4 de la ville de Goma, une de la zone de santé d'Ouvira et une de la zone de santé de Boutembo dans la chirurgie réparatrice de la fistule et le suivi post-opératoire.
Voilà, merci à Lorraine, à Goma. Il y a beaucoup de mains ici, je sais qu'à Goma également, mais nous allons prendre, est-ce qu'on peut avoir le micro là? D'abord là et ensuite, ne vous en faites pas, vous aurez le micro. Décidément. Allez-y, madame, présentez-vous et puis posez votre question. Je sais que vous êtes sur RTMC Développement. C'est une question sur la FAO?
C'est de développement, Laetitia Massila. Je pose ma question en général, comme vous parlez de la violence. À présent, presque tous les territoires congolais nécessitent des interventions humanitaires à cause de troubles, des inondations et l'insécurité qui s'opposent. Êtes-vous capable de juguler toute la crise avec une somme importante dont vous disposez dans votre plan d'action? Merci.
Alors, votre question recouvre en fait différents volets. Il y a le volet sécuritaire qui est celui que nous, forces de la MONUSCO, nous couvrons au quotidien. Il y a le volet également assistance, je dirais, à des catastrophes. Dans ce domaine-là, nous n'agissons pas seuls. Nous avons effectivement des capacités de génie militaire qui peuvent aider à contribuer à rétablir des situations difficiles. On a reconstruit un pont, il n'y a pas très longtemps, qui avait été détruit par des inondations. Mais nos forces pourront effectivement agir si jamais une situation catastrophique venait à se présenter. On viendrait épauler nos partenaires congolais dans la gestion de cette crise. Et c'est un volet que la mission pourrait remplir, mais sous des conditions plutôt particulières, puisqu'il faut parfois des équipements adaptés pour faire face à telle ou telle situation de crise, je dirais de catastrophe naturelle.
Voilà, nous allons prendre une question ici avant de venir sur la gauche. Allez-y.
Moi c'est Papi Kalokola pour la Libre Orientale. Je voudrais poser une question sur la suite du processus électoral. Vous nous avez dit tout à l'heure que la MONUSCO, pour sa part, venait de terminer avec le déploiement des matériels électoraux à travers le pays. Mais des inquiétudes persistent quant à la matérialisation de l'organisation de cette élection. Est-ce qu'à ce jour, on peut nous donner des informations sur les engagements financiers
des partis, notamment le gouvernement, d'une part, et de l'autre, le bailleurs étrangers ou les partenaires étrangers.
Je peux.
Toi, ces questions-là, c'est là où maintenant qu'il y a des inquiétudes. Merci.
Oui, comme vous l'avez entendu au cours de cette conférence de presse, je peux confirmer effectivement que le volet logistique du soutien de la MONUSCO, tel que demandé à la CENI, à la MONUSCO, est presque bouclé ou va être bouclé d'ici quelques jours. 3000 tonnes de matériel ont déjà été transportées à travers tout le pays. Il reste, comme vous l'avez dit, la mobilisation des fonds pour le soutien à l'organisation des élections. Et vous savez qu'au niveau de la MONUSCO, nous fonctionnons par résolution. La dernière résolution, la 2277, disait très clairement que la MONUSCO devait donner un soutien à l'enregistrement des électeurs. Et donc, nous sommes en train de finir cette phase-là et nous espérons que la prochaine résolution qui vient va essayer justement d'expliciter ou de nous donner une feuille de route pour éventuellement le soutien au processus lui-même. En tout cas, dans sa présentation, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, dans sa présentation au Conseil de sécurité hier, a émis ce vœu. Nous allons voir si les membres du Conseil de sécurité vont adhérer à ce souhait du représentant spécial. Et dès que cela se fera, nous allons voir effectivement quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour mobiliser ces fonds dont vous parlez au niveau de la communauté internationale, car nous pouvons effectivement agir au niveau de cette communauté internationale à travers les représentations diplomatiques ici, à travers les représentations diplomatiques également au niveau de notre siège des Nations Unies à New York. Voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est vraiment inscrit sur nos agendas pour les prochains mois et nous allons essayer de voir comment mettre en œuvre ce volet-là. Nous allons revenir sur la gauche pour prendre une question. Ensuite, on va revenir à vous. Je sais que depuis le début de la conférence également, vous souhaitez poser une question. Allez-y, madame.
Sonia Rolli, RFI. Je voulais savoir, est-ce que la MONUSCO enquête sur les allégations de fausses communes dans le Kassai? Le Kassai central et le Kassai oriental, combien de fausses communes avez-vous déjà identifiées et est-ce que vous êtes informé des nouvelles allégations faisant état de nouvelles fausses communes, enfin, il y en a dans plusieurs localités et également sur les nouvelles vidéos où l'on voit, où on croit voir des forces de sécurité commettre des exactions, notamment le jour de la mort du chef Kamuna Tsapu.
Barbara, peut-être quelques éléments de réponse. Allez-y. C'est bon.
Oui, tout à fait. On est au courant des allégations, présence des forces communes dans plusieurs endroits. La question nous a été posée lors d'autres conférences de presse aussi. Et selon, vous savez que notre méthodologie est assez stricte. Donc, pour certaines allégations, nous ne sommes pas en mesure de confirmer pour l'instant. Pour d'autres, nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des restes humains, où nous avons des indications assez précises à travers des témoignages des familles des victimes, des témoins, ainsi de suite. Et nous avons, ça fait déjà depuis l'année dernière, nous avons mené 3 contacts avec les autorités pour que eux, ils puissent poursuivre leurs enquêtes qui sont en cours. Par rapport au nombre de fosses, moi je ne donnerai pas des chiffres trop précis, justement parce que certains, moi je les classifie encore, notre bureau les classifie encore comme des allégations, bien que ce sont des allégations que nous prenons très au sérieux. Mais nous avons communiqué des indications très précises sur 10 endroits où nous sommes assez sûrs que ce que nous avons vu, les témoignages que nous avons recueillis font état des fosses communes. Pour être plus précis, ça se réfère pas seulement à des faits récents. On avait transmis aux autorités le mois de décembre des allégations sur la présence de 7 fosses communes qui remontaient, d'après nos recherches, à des faits qui se sont passés en fin septembre 2016 en Koto, dans les territoires de Demba. Et ensuite, le mois de mars, nous avons transmis un autre rapport assez précis avec des lieux et des précisions des dates, ainsi de suite, au gouvernement, faisant état d'au moins 3 fosses communes aux alentours de Chimbulu. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'enquête de RFI qui est sortie. Bon, moi, je n'ai pris connaissance hier. Et plus ou moins, les faits se réfèrent aux mêmes rapportés par RFI. Donc oui, nous sommes au courant, nous suivons la situation de très près et nous sommes les informations que nous avons déjà partagées avec le gouvernement ont été exploitées par le gouvernement et nous sommes en train de discuter l'appui à la justice militaire pour qu'eux puissent aller enquêter ou pour qu'eux puissent continuer à enquêter sur ces allégations sérieuses.
Merci Barbara. Nous allons rester là pour prendre une question et ensuite on va prendre une dernière question pour boucler cette conférence de presse qui s'allonge effectivement.
De la RTNC, ma question s'adresse au représentant de la FAO, M. Alexis. La désertification des mers est un réel problème pour le continent africain et un risque réel pour l'approvisionnement en eau. Quelle est la politique des Nations Unies pour pallier les problèmes de désertification dans les continents africains?
Alexis.
Bon, ça c'est une grande question. Hein. Vous savez que par exemple, il y a un énorme programme qui s'appelle la Grande Muraille Verte qui a été initié par principalement deux présidents, du Sénégal et du Nigeria. Alors ça a été initié il y a, je pense, presque une dizaine d'années et ça prend malheureusement beaucoup de temps pour être mis en œuvre, mais pour l'instant, il y a ce qu'on appelle le Green Climate Fund, le fonds vert pour le climat, qui, en théorie, devrait avoir un fonds d'environ 100 milliards de dollars. Pour l'instant, je crois qu'ils sont arrivés à mobiliser 10 milliards de dollars. Et le Green Climate Fund devrait être en mesure de pouvoir financer et mettre en œuvre des projets liés à cette grande muraille verte. Donc l'idée, c'est d'essayer de, pas simplement de planter des arbres comme c'était prévu initialement, mais de faire en sorte de développer des moyens d'existence respectueux de l'environnement en partant du Sénégal, et je pense que ça va jusqu'à Djibouti, sur une bande, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres de large maximum. Je pense que c'est de l'ordre de la dizaine de kilomètres de large. Et donc là, ce serait des travaux de plantation d'arbres, mais également d'agriculture respectueuse de l'environnement, de climate smart agriculture. Et donc il y a tout ça c'est le programme principal qu'il y a par rapport à les risques de désertification, qui heureusement n'apparaissent pas encore au Congo.
Voilà, merci à Alexis pour ses éléments de réponse. Fin de cette conférence de presse et puis à la semaine prochaine. Merci.